Bonsoir à tous, j'ai entendu 8 heures sonner au clocher de l'église.
Ah oui, on connaît plus
l'heure. C'est romantique. Voilà, merci d'avoir bravé, peut-être pas tout à fait le froid, mais la nuit en tout cas. C'est un peu comme quand on attend la messe de minuit, vous savez, avec les yeux qui commencent à se fermer. Là, ça sent un peu les nuits du solstice qui approchent. Bienvenue donc à Saint-Eustache pour cette troisième session sur... la nourriture, manger, boire dans les textes bibliques, dans la tradition biblique. Alors ne soyez pas trop intimidés par, bonsoir monsieur, par le livret qui vous a été fait. Madame Palacios, qui est secrétaire paroissiale, a eu un petit scrupule parce qu'elle avait vu que nous annoncions le chapitre 1 de Luc. Alors elle m'a appelé, je lui ai dit qu'elle pouvait se contenter de la visitation et du magnificat parce que c'est le texte qui a été retenu. Il renverra les riches les mains vides et il comblera de bien les affamés. C'était le mot qui nous intéressait. Bonsoir Guillaume. Et donc voilà, mais vous vous retrouvez avec tout le chapitre 1 que nous ne lirons pas, mais c'est intéressant de voir au fond que ces évangiles de l'enfance, avant la nativité, qui est au chapitre 2 de Luc, sont regroupés finalement dans ce chapitre premier qui est très beau avec la première phrase de dédicace. Saint Luc est le seul avec Saint Jean à expliquer un peu, à expliciter son intention d'évangéliste. Vous savez que l'évangile de Luc est non seulement le plus long, probablement le plus littéraire. La langue grecque chez Saint Marc est presque de la littérature de gare, mais la langue grecque de Saint-Luc est plus littéraire. Et si on prend Saint-Luc dans toute son extension, c'est-à-dire Saint-Luc plus les actes des apôtres, on a plus du quart du Nouveau Testament. Donc évidemment, c'est un livre, et c'est un très grand livre. Et Luc, en tout cas l'auteur que nous appelons Luc, ou cette école que nous appelons l'école lucanienne, fait vraiment œuvre littéraire et théologique. Et explicite son intention dans la première phrase, que nous pouvons lire très rapidement d'ailleurs, « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. » Donc vous voyez, il y a un lien entre le témoignage oculaire, ceux qui ont touché Jésus et ceux qui sont devenus ministres de la parole. Donc il y a un lien entre le ministère, la vocation si vous voulez, et la présence au Christ. Il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, qui est cette espèce de lecteur hypothétique, hein, qui n'existe pas, qui est celui qui aime Dieu, qui cherche Dieu, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. » Alors, Saint Jean fait la même chose à la fin de son évangile, et Saint Luc, donc, a cette petite épître dédicatoire au tout début du sien. Alors, ce premier chapitre, effectivement, c'est la double annonciation. Annonciation de la naissance de Jean et annonciation de la naissance de Jésus, et qui annonce la double nativité, nativité du précurseur, que nous fêtons le 24 juin, vous savez, avec le solstice d'été, puisqu'il faut qu'il diminue pour que le Christ prenne toute sa stature, et nativité de Jésus que nous fêtons au solstice d'hiver, au moment où la lumière renaît. Voilà. Donc tout ça est très riche de symboles, mais ce qui va nous retenir en ce temps de l'Avent et en cette troisième session, c'est bien le récit de la visitation et la grande hymne liturgique qui est devenue le Magnificat. Voilà. Je pense que, au fond, ce qui va colorer cette rencontre de ce soir, c'est la notion de faim spirituelle, d'appétit spirituel aussi. Quels sont nos appétits spirituels? Qu'est-ce qu'être affamé? À l'heure où nous parlons, vous savez que des rumeurs très difficile à entendre court sur ce qui se passe en Syrie. On parle beaucoup d'Alep, mais on dit que les armées rebelles affament certains villages et que là où Daesh est encore du côté de Palmyre, là où Daesh est encore présent, il y a des villages qui sont affamé, un peu comme le ghetto de Varsovie a pu l'être dans les années 40. Alors je crois que cette notion de faim, n'en faisons pas justement un motif simplement rhétorique, mais essayons de lui donner toute son extension humaine, existentielle et spirituelle aussi, parce que nous parlons d'un Dieu qui s'est incarné et qui est devenu l'un de nous et qui a connu la faim, qui a connu même la faim dans ses tentations au désert. Donc bienvenue à toi Marc pour cette troisième session.
Alors, je crois que j'ai bien aimé ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement il y a toujours peut-être à partir de ces textes, peut-être une tentation d'une lecture vraiment spiritualiste, en disant voilà, il faut finalement accepter de manquer, d'être affamé dans ce monde, de se priver des choses matérielles, des biens matériels, du plaisir, de la nourriture, de la chair, du bonheur en ce monde, pour avoir la vie future et être heureux dans la vie future, ou alors devenir de purs esprits. Alors ça, je pense qu'effectivement, ce n'est pas dans la tradition biblique du tout. C'est plutôt les traditions orientales. Alors, il y a beaucoup de points communs entre le bouddhisme et le christianisme. On a tout à fait le droit de voir une convergence. D'autant plus que, par définition, si on est monothéiste, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule transcendance. Et donc, tous les chemins vers Dieu convergent. Et on parle bien, j'allais dire, de la même chose. Quand on parle d'illumination chez le bouddhisme, ou on parle de... Je ne sais pas qu'on pourrait dire de quoi, de rédemption, de salut, de royaume de Dieu chez nous. Finalement, on parle quand même, à mon avis, de la même chose. Mais c'est vrai que dans le bouddhisme, quelque part, il y a l'idée qu'il faut relativiser la faim et la soif de ce monde pour devenir plus spirituel, viser l'élévation de l'âme. Je ne pense pas que ce soit la leçon de la Bible, en partie, alors peut-être un peu celle de Jean-Baptiste, mais en tout cas pas celle de Jésus. D'ailleurs, on traitait Jésus d'ivrogne et de glouton. On le voit passer son temps à manger. Et à mon avis, dans ces textes, il n'y a pas marqué, par exemple pour les béatitudes qu'on va voir un peu après, « Heureux les affamés ». Il y a marqué « Heureux les affamés, ils seront rassasiés ». Donc en fait, si vous voulez, c'est plus le mouvement de cette faim, pour aller vers une croissance, vers quelque chose qui se prolonge dans une manière positive. Et c'est pas simplement au niveau spirituel, c'est à tous les niveaux de l'être. Et la dimension du corps, la dimension du bonheur en ce monde fait partie du programme, j'allais dire. C'est pas simplement un bonheur dans une sorte d'exaltation mystique. Aussi, ça fait partie de la beauté extraordinaire de l'existence, d'avoir cette dimension d'exaltation mystique. Mais c'est une des dimensions de l'existence, et la dimension physique en fait partie. D'ailleurs, on le voit dans ce Magnificat, donc ce chant, ce cantique de Marie. Le bonheur, il est pour maintenant, en fait. Et même le salut, la rédemption... Elle a été donnée dans le passé, finalement. Vous voyez, c'est pas simplement un salut pour le futur, pour la vie future. C'est un salut qui est déjà donné au passé, qui est déjà accompli, finalement, alors que Jésus n'est même pas né. Donc, dans cette rencontre avec Dieu, elle découvre d'abord la grâce de Dieu, et puis ensuite, elle va comprendre que quelque part c'est un salut qui est déjà réalisé et dont elle est appelée à participer, en particulier par ce qui lui arrive. On va le voir aussi dans les Béatitudes. Il n'y a pas marqué « Vous aurez le royaume de Dieu après si vous êtes bien sage ». Il y a marqué « Voilà, le royaume de Dieu est à vous ». Voilà, pas à d'autres, il est à vous. Et donc c'est à vivre maintenant, au présent, voilà. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est quand même important, comme tu disais, c'est l'incarnation. Et je pense que plus que tout le reste dans les évangiles, c'est quand même bien ça qui est qui est radicalement bouleversant. C'est cette incarnation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la transcendance qui prend chair dans notre vie de tous les jours, dans la vie ensemble, dans ce que nous pouvons vivre individuellement. Et ça, c'est quand même très fort, je pense.
Alors effectivement, j'aime beaucoup l'idée que notre foi et notre religion, au fond, osons dire le mot, quelquefois on n'utilise plus tellement le mot, mais est une religion du désir, au fond. C'est très augustinien, saint Augustin met l'accent là-dessus. Et c'est vrai que dans la tradition bouddhiste, quand même, le désir, alors le mot en pali, c'est plutôt la soif, d'ailleurs, c'est le besoin de... Voilà. Et comme il est toujours sujet, évidemment, à des frustrations ou des réalisations inabouties, effectivement, il faut aller jusqu'à l'extinction du désir, au fond. Il faut éteindre le désir pour ne pas produire ce qu'on appelle en pali la dukkha. La dukkha, c'est cette espèce d'expérience qui fait que de toute façon ça ne va jamais, puisqu'on n'est jamais, on fait jamais exactement ce qu'on voudrait faire, on n'est jamais avec les personnes qu'on voudrait ne sont pas là, etc. On a faim mais on n'a pas exactement ce qu'il faut pour assouvir exactement et dans sa plénitude la faim que l'on éprouve. Et donc effectivement il y a une forme quand même de pessimisme bouddhiste. Alors c'est un peu un cliché, mais pas totalement. C'est vrai que l'idéal bouddhiste est quand même dans une certaine extinction. Alors que le christianisme, non seulement honore le désir, mais c'est une religion du désir, au fond. Voici le temps du long désir, on chante cet hymne pendant le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est ça, les enfants le savent bien d'ailleurs. Il y a autant de joie dans l'attente et dans les préparatifs d'une fête que dans la fête elle-même. C'est même un classique de la pastorale. Et il y a une joie dans le désir. Je lisais récemment un article sur l'utopie numérique. Et l'utopie numérique serait fondée, au fond, sur un postulat qui tendrait à dire que le bonheur, au fond, c'est la réalisation de nos désirs. Et que donc, il faut multiplier les situations où on serait en mesure de réaliser nos désirs. Et que plus on réalise nos désirs, plus on est heureux. Et ça, l'hypothèse, c'est le postulat qui n'est jamais interrogé, qui est une sorte d'impensé de l'utopie numérique. D'où le bombardement, d'ailleurs, de publicité, mais pas seulement. Il y a l'idée, quand même, qu'au fond, le bonheur de l'homme, c'est d'assouvir, pas seulement ses pulsions, mais d'assouvir son désir. Et au fond, le christianisme, en maintenant le désir, et en disant qu'il y a de la joie dans le désir lui-même, qu'il peut y avoir de la joie dans l'attente, je crois que c'est précisément la richesse spirituelle du temps de l'Avent. Je crois que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un évangile, c'est-à-dire d'une bonne nouvelle. C'est pas forcément l'aboutissement qui comble. C'est comme si on vivait les yeux rivés sur la mort. Effectivement, à un moment, le chemin compte autant que le terme du chemin, c'est évident. Et je crois que justement notre foi est une foi de pèlerin, c'est une foi pérégrine qui voit aussi du bonheur dans la tension vers, dans l'élan vers. Chez saint Paul d'ailleurs, cette notion d'élan est très très fréquente. Et puis dans les béatitudes elles-mêmes, il y a cette espèce de tension entre un état de manque et puis le royaume. Mais le royaume n'est pas la récompense. Il est précisément dans ce déjà-là et dans ce mouvement, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, on va peut-être lire l'évangile de la Visitation, donc la visite de Marie à Élisabeth. C'est personnellement, dans l'iconographie occidentale, je trouve que c'est un des plus beaux sujets qui soit, celui effectivement de la rencontre de ces deux femmes entre elles. Et c'est même assez étonnant quand on y pense. Marie, au moment de l'Annonciation, devient la première disciple. Au fond, en disant oui, elle est la première disciple. Et que fait un disciple ? Il va annoncer ce qu'il a connu. Et au fond, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle dit oui, mais aussitôt, elle se met en chemin. Au lieu de rester confinée dans sa chambre et de se mettre en lotus pour méditer sur la grandeur du destin qui s'accomplit en elle. Non, elle part, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Quelle que soit, d'ailleurs, l'historicité exacte, mais en tout cas, ce que veut dire Saint-Luc, c'est qu'il y a un dynamisme dans le fait d'être reconnu comme disciple. On se découvre disciple et on sort de sa passivité, on sort de sa torpeur. Alors nous, c'est sans cesse qu'il faut faire ce oui, évidemment. Et sans cesse, on se met en chemin et elle vient témoigner. Et elle vient témoigner en plus à celle qui porte en elle le précurseur. Et au fond, c'est le précurseur qui, en se débattant dans le sein d'Élisabeth, va déjà dire quelque chose de l'identité bouleversante de celui qui l'accueille. Alors je pense que l'intention profonde de cette page d'évangile, c'est nous dire que Jésus n'est pas Jésus au moment, je ne sais pas, de son baptême ou au moment de sa mort. Il est, dès le début, il y a quelque chose d'ontologique, et au fond chez Jean-Baptiste aussi, et chez chacun de nous. Nous sommes nous-mêmes déjà, voilà, et ce n'est pas du tout un fatalisme, ce n'est pas pour nous enfermer dans... Au contraire, c'est très libérant. C'est très libérant parce que tous les déterminismes de la vie ne suffisent pas à venir, ternir cette espèce d'identité initiale que nous avons, qui est notre être profond, qui existe déjà dans notre enfance, qui existe même dans le sein de notre mère.
Ça se termine par « et l'ange la quitta ». Et effectivement, c'est ce que tu disais, elle n'est pas assise en position du lotus dans l'illumination. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une illumination, certes, une grâce qui est donnée, donc qui précède sans qu'elle ait rien fait, quoi que ce soit. Il y a ce « oui » qui en fait, dans un certain sens, une Ève qui aurait claqué la gueule du serpent qui parle, ce qui est quand même une grande et belle chose. Mais après cette expérience spirituelle de la grâce et de la foi, il y a marqué « l'ange la quitta ». Et ça, je pense que c'est assez fréquent dans les évangiles, par exemple. Après une rencontre avec Jésus, il y a un certain nombre de fois où il dit « toi, suis-moi ». Mais assez souvent... Il dit, mais maintenant, vas-y, retourne à tes affaires, en fait, va en paix. Et c'est très fréquent, ça. Ou alors, il y a des paraboles où le roi, qui représente Dieu, si vous voulez, est là, il donne les moyens d'eux, et puis il se retire, il s'en va. Donc, le fait de ne pas être dans l'expérience mystique en permanence, ça peut être effectivement notre péché de dire, de chasser l'ange, de chasser Dieu de notre existence. Ça peut arriver, ça arrive à tous, bien entendu, puisque nous sommes tous pécheurs, mais pas seulement. Il y a aussi l'idée que l'expérience mystique peut être des temps dans notre existence, peut être des coups de pouce, ça peut être des moments intenses ou diffus, mais il y a aussi le temps de la vie en ce monde, le temps d'aller vers l'autre. Et c'est bien ça encore l'incarnation, je pense, voilà, de quelque chose. Alors après, quand on dit que c'est le sixième mois, on s'en fiche, si vous voulez. Donc là, le chiffre 6, ça fait référence au sixième jour, vous voyez. Et dans un certain sens, Jean-Baptiste évoque peut-être cette préparation du septième jour, qui serait le jour de la bénédiction, le jour de... les six premiers jours, c'est la création matérielle. Et le septième, ou plutôt le soir du sixième, l'aube du septième, c'est dans la création de Genèse, c'est là qu'est donnée la bénédiction et la dimension spirituelle qui peut être quelque chose qui est de l'ordre du Christ, finalement. Donc on en est là un peu à cette jonction, à cette pliure, finalement. Donc tu as raison, nous sommes à la fois Marie, qui est une figure du disciple, enceinte par la parole, par l'esprit, d'une dimension christique de notre être. On est aussi quelque part Élisabeth et Jean-Baptiste qui représentent peut-être la dimension peut-être de physique de notre être, peut-être la dimension aussi d'ascèse et de religion qui peuvent être une préparation à l'esprit. Donc nous sommes tous ces personnages. Alors derrière, il y a sans doute un récit historique quand même, parce que Jésus de Nazareth a bien sûr existé. Il avait bien une mère, Marie, qu'il y a un mystère autour de sa naissance et de la conception. On en est tous d'accord, que ce soit avec ses récits un petit peu miraculeux, frôlant la mythologie d'une conception miraculeuse, qu'on soit dans le scandale que disent les Juifs de Marie enceinte d'un soldat romain qui s'appelait Pandera ou Pantera. Qu'importe, si vous voulez. En tout cas, de ce temps historique, Luc nous fait une prédication pour que, à travers cette histoire, eh bien, nous mettions nos pas dans les pas de Marie, du Christ, d'Élisabeth et de Jean-Baptiste, et que nous arrivions ainsi à vivre ce salut qui est donné en Jésus-Christ. Donc c'est à la fois historique, réécrit, pour qu'on vienne l'habiter. Voilà. Alors qu'ensuite, qu'une jeune fille enceinte, hors mariage, aille se réfugier chez la cousine, c'est pas non plus invraisemblable historiquement, si vous voulez. C'est ce qu'on faisait dans ce cas-là. Quelle que soit la raison, que ce soit une conception miraculeuse, j'ai des hésitations sur le fait historique. De toute façon, notre salut ne repose pas sur ce détail gynécologique, mais que ce soit une conception miraculeuse par Dieu, que ce soit par viol ou par flirt un peu trop poussé, si une jeune fille se trouve enceinte, bon, elle part en vacances 6 mois et puis voilà, discrètement. Donc c'est peut-être ce qu'elle est en train de faire, si vous voulez, historiquement. Mais ça, finalement, ça nous concerne moins, ce récit, cette dimension purement historique. Ce qui nous importe, c'est ce qui est dit à travers ce texte, et c'est absolument passionnant, sur une certaine anthropologie, sur un mouvement du salut en nous, de cette grâce qui nous précède, qui nous appelle, qui nous rencontre, ce oui de Marie, cet élan vers l'autre. Et puis chaque mot, si vous voulez, là-dedans est important, hein, se rendre vers le haut pays, y aller en hâte, si vous voulez, cette montée, tout est important, si vous voulez, sinon, c'est pas, voilà, chaque mot est important et à goûter, peut-être donc dans cette lecture de ce paragraphe, la visite de Marie à Élisabeth. Alors, si quelqu'un veut nous faire le lecteur ou la lectrice de ce texte.
Comme Zacharie. Voilà.
C'est pas bon signe. Hein, quand on a rencontré l'ange et que ça rend muet, c'est que...
C'est la visite de Marie.
Oui.
En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.
Merci beaucoup. Alors, évidemment, ce texte, vous avez dans les évangiles de l'enfance, chez Luc, 4 grands textes comme ça qui relèvent de ce qu'on appelle l'hymnologie, c'est-à-dire la musicologie, si vous voulez, liturgique, qui était celle de l'époque. Donc, on a une prosodie. Araméenne, typique, qu'on retrouve aussi dans le livre des Maccabées, par exemple, donc qui est typique, voilà, du premier siècle et de l'époque, en tout cas d'après la restauration du temple et de l'époque même hellénistique. Et vous avez quatre grands cantiques comme ça, hein, puisque dans la bouche de Zacharie, il y a ce que nous appelons le Benedictus, quelquefois. Vous avez donc le Magnificat. Vous avez chez les anges le Gloria, qui va ensuite être développé au Moyen-Âge, qui va devenir une hymne de la liturgie dominicale. Et puis vous avez dans la bouche de Siméon, ce qu'on appelle quelquefois le Nunc Dimittis, que nous disons au compli tous les soirs, et qui est un signe effectivement de remise de soi, d'abandon à Dieu. Alors il est possible que ces hymnes aient été rajoutés, qu'ils ne fassent pas partie du premier processus rédactionnel de Saint-Luc. En tout cas, ils sont insérés de manière remarquable, hein. C'est des moments de lyrisme et de poésie et de théologie aussi. Et celui-ci, bien sûr, reprend et paraphrase ce que dit Anne, la mère de Samuel, dans le premier livre de Samuel. Ça a souvent été dit, le parallèle entre les deux. Alors, que veut nous dire ici le rédacteur, si ce n'est que Marie, pour dire son enthousiasme, pour dire son exultation spirituelle, recourt à tout un vocabulaire et toute une tradition. C'est ça qui est beau. Alors, évidemment, il n'y avait pas un magnétophone pour enregistrer ce qu'elle a dit, mais alors, il n'est pas impossible aussi que ces textes relèvent finalement peut-être de la toute première pratique des premiers disciples. Et que donc, en les mettant sur les lèvres de Marie, c'est une manière de dire qu'elle fait partie de cette génération des premiers disciples. Ça, c'est une possibilité. Et que donc, voilà, c'est un peu évidemment une reconstruction, une recréation, mais il y a une grande pertinence spirituelle à mettre ce texte sur les lèvres de Marie. Alors, bien sûr, la théologie de la libération, et puis tout un courant théologique marqué par les luttes historiques, depuis Lamennais en particulier, les Français sont toujours pionniers dans ce domaine, se réclament du Magnificat, parce que, bien sûr, il a jeté les puissants à bas de leur trône, il a élevé les humbles, etc. Il y a des renversements eschatologiques qui présentent le royaume comme une espèce d'inversion de la logique du monde, de la logique du monde, comme dira Saint Jean dans son évangile.
Alors, ce qui est touchant, je trouve, c'est qu'elle parle à la première personne, en fait. Donc, c'est vraiment une appropriation de ce salut, une expérience de ce salut. Elle le met effectivement dans une louange, ce qui, je pense, dit aussi la force de la louange, et des quatre hymnes est important, c'est cette force de cette louange pour ruminer ce que Dieu fait dans notre existence, peut-être à travers les autres aussi. Ça, c'est quelque chose qui me semble important, en fait. C'est ce que dit Jésus quand il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour ». Pour moi, c'est une sorte de moteur essentiel qui permet, dans la gratitude, dans la louange, pas simplement de profiter de la vie, mais de l'investir dans une qualité d'être, c'est-à-dire vraiment en ruminant ces expériences de Dieu ou ces belles expériences de la vie, peut-être à travers des rencontres, à travers là, en venant, j'avais la pleine lune dans un peu de brouillard, et puis... Bon, sur lui, c'est quand même des moments de beauté. C'est pas simplement se dire, bah, tiens, c'est sympa, c'est joli. Essayer dans la louange, du coup, il y a quelque chose de la beauté qui peut venir s'incarner dans notre chair, dans notre itinéraire. Donc moi, c'est déjà ce qu'elle fait, si vous voulez. Elle laisse pas glisser cette simple expérience de Dieu comme un instant. Elle prolonge cet instant par une rumination, une gratitude, une louange. Et ça, c'est important, mon avis. Ensuite, elle l'extrapole, c'est-à-dire cette expérience de renversement, elle n'était rien et elle devient quelque chose, finalement. Alors, ce n'est pas non plus sans mérite de sa part, dans un certain sens. Y a une grâce qui la précède, qu'elle n'a pas voulu, puisqu'elle n'était rien, si vous voulez. Et ce texte le dit. Voilà, ceux qui sont rien sont au bénéfice de la... peuvent être au bénéfice de la grâce. Puisque c'est une grâce, c'est gratuit, donc ce n'est pas pour ceux qui seraient riches en religion, riches en bonne pensée, riches en certitude, riches en ceci ou en cela, riches en argent pour faire des sacrifices qui achèteraient la bienveillance de Dieu, non. Il y a une grâce première, elle n'était rien, mais quand même son mérite, c'est cette ouverture à la grâce. Alors cela dit, est-ce que c'est une condition sine qua non? Oui et non. Oui, c'est que Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à aimer, à espérer ou à être joyeux. On ne peut pas forcer quelqu'un à ça. Donc oui, c'est bloquant. S'il n'y a pas ce oui de Marie, Dieu ne pourra pas nous forcer à espérer, à aimer ou à être joyeux, à être heureux. Mais non, parce que finalement, Dieu a le temps pour lui. Et donc, finalement, bon an, mal an, il arrivera quand même à nous rejoindre par un bout ou par un autre. Et ce oui, il finit quand même chez le pire d'entre nous, pour peu qu'on puisse nous classer. Je pense que Dieu se débrouillera bien pour nous rejoindre. C'est ce que dit finalement la parabole de la brebis perdue de Jésus, même la plus perdue des brebis perdues. Jésus ne dit pas « s'il la retrouve », et Jésus dit « quand il la retrouve ». Et donc, c'est juste une question de timing. Alors, cela dit, ce « oui », ce n'est pas comme peuvent le dire, à mon avis, certaines personnes, voilà, du tout oui, tout non dans notre existence. C'est des petits « oui » qui peuvent être par la tête, et ça aide beaucoup, donc par cette conscience de s'ouvrir à Dieu, cette recherche de Dieu conscience. Mais c'est important, mais c'est ni le tout, ni la seule façon. On peut être touché par les tripes, c'est-à-dire par... voilà, par exemple, c'est ce que dit la première lettre de Jean, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, quelqu'un qui est athée comme une pierre par la tête, peut-être que par les tripes, Dieu arrive quand même à le rejoindre. Et il y a peut-être ce « oui » de Marie, il peut être un peu par les tripes. Alors c'est mieux si on n'est pas handicapé d'une des dimensions de notre être, c'est aussi la leçon de l'incarnation, on est un être multiple, la chair, l'intelligence fait partie aussi de ça, et c'est ce qu'ajoute d'ailleurs la première lettre de Jean. Celui qui dit « j'aime Dieu » mais qu'il n'aime pas son frère, il y a du mensonge là-dedans, parce que déjà Dieu on ne le voit pas, c'est pas facile. Si on dit qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas et qu'on n'aime pas son frère qu'on voit, il y a quand même un problème. Donc, vous voyez, le oui de la tête ne fait pas de nous un croyant. Il faudrait qu'il y ait le oui aussi de la vie transformée. Le oui de l'athée qui est généreux, ça ne suffit pas non plus, parce qu'il va peut-être manquer cette dynamique, cette humilité aussi. Enfin bref, c'est un ensemble. Donc il y a cette grâce de Dieu qui nous précède, qui nous élève extraordinairement par... quand il arrive à trouver un oui, finalement. Alors, est-ce que le oui est quelque chose, un effort fantastique? Je ne suis pas si sûr. C'est plutôt dire non qui est un effort. C'est ce qui me semble dire Paul, par exemple. Il dit, mais est-ce que vous n'avez pas conscience que l'amour de Dieu vous pousse à la repentance, à la conversion? Voilà. Donc, je crois que l'élan naturel, c'est quand même, et je pense que c'est vrai, c'est quand même... très largement partagé cette expérience de Dieu qui nous rejoint. Ça peut être vraiment, ça peut se ressentir comme une présence mystique, ça peut être aussi dans un élan intellectuel, théologique, biblique, ça peut être à travers d'autres personnes, mais enfin bref, c'est partagé. Et sentir cela, se laisser transporter par ce meilleur, c'est un élan, je pense, relativement naturel. On peut se blinder contre ça, lutter contre cet élan naturel. Ça s'appelle le péché, peut-être, si vous voulez. Bien que ça fasse peut-être trop religieux de dire ça, ça peut être une résistance. De toute façon, Marie, elle est l'exemple du croyant, le type même du croyant. C'est donc, elle vit ce retournement. Ce retournement, ce regard de Dieu sur cette humble servante, et elle le rumine et elle se laisse construire par ça, Et elle va finalement prolonger cela en pensant aux autres et en pensant au monde. Et ça aussi, je crois que c'est une humilité que permet peut-être la foi. C'est que quand on, simplement quand on se rend compte de l'immensité de Dieu, que ça nous dépasse, que c'est de l'ordre d'une grâce, on se dit, mais forcément, si c'est de l'ordre d'une grâce, les autres en sont aussi au bénéfice, finalement. Puisque ce n'est pas dû à... Vous voyez, il y a le oui qui est son mérite, mais la grâce a précédé. Donc, elle se dit, puisque c'est pas, ça ne vient pas de moi, qu'elle sent cet amour, cette justice de Dieu, elle se dit, ben, sans doute, les autres aussi. Et donc, ce retournement qu'elle a vécu au passé... Elle se dit, probablement les autres aussi en sont au bénéfice, voilà. Et donc elle va extrapoler finalement sa petite expérience personnelle pour le monde entier, de ces renversements, de ce retournement, et de ce passage de l'arrogance à l'humilité peut-être qu'elle a vécu à travers cette expérience de Dieu. Ça peut être un des grands effets peut-être de l'expérience de Dieu.
Oui, j'aime bien cette notion d'élan, parce qu'effectivement, ce n'est pas un élan, parce que beaucoup de religions, on parle de force, d'énergie, c'est très à la mode aujourd'hui de parler de toutes ces énergies, de ces ondes, etc. Et ici, c'est un élan qui n'est pas une force aveugle, ce n'est pas une poussée obscure, ce n'est pas un conatus aveugle, il est enraciné dans une personne, dans une autorité. Et effectivement, tu disais, elle dit « je ». C'est d'ailleurs peut-être cette forme d'autorité qui est le pouvoir de commencer, le pouvoir des commencements, comme on dit, le pouvoir d'initier quelque chose, le pouvoir d'introduire quelque chose de neuf dans la fatalité, dans un temps qui est tragique, qui est marqué par la répétition inéluctable du même. Eh bien, tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de neuf. C'est peut-être le sens d'ailleurs profond de la virginité de Marie, enfin, le sens spirituel. Pour le père de Bérulle, c'est ça, c'est cette capacité... de commencer quelque chose à frais nouveau, mais en laissant tomber son arrogance, c'est-à-dire en laissant tomber l'idée que ça repose uniquement sur soi, et c'est fondé sur quelque chose de plus grand. Donc c'est un être qui se laisse envahir par le divin, et c'est cette invasion du divin, cet accueil total du divin et sans condition chez une personne, voilà, d'origine obscure d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs. C'est pas du tout, on n'est pas dans les mythologies babyloniennes, enfin c'est pas une reine, c'est pas Cléopâtre, c'est pas Isis, c'est une femme du peuple d'Israël, voilà, qui vit intérieurement cet accueil total du divin en elle, et au fond c'est ça profondément le sens de la virginité. Alors effectivement, moi j'aime beaucoup l'idée, comme tu dis, qu'elle parle en jeu, elle dit jeu, c'est un sujet. En modernité, on dirait c'est un sujet, comme le psalmiste, les psaumes aussi, vous savez, disent je. Alors quelquefois c'est une figure un peu anonyme, on ne sait pas trop qui c'est quelqu'un qui a souffert mais qui croit, qui maintient l'espérance envers et contre tout malgré les épreuves. Mais ici c'est pas sans visage ici, c'est vraiment elle. La tradition des psaumes dit que c'est David, mais au fond, on sait jamais qui c'est. Ici, c'est Marie, elle dit « je », et au fond, lorsque nous chantons le Magnificat, puisque c'est devenu un cantique, nous nous associons à son « je », et c'est aussi nous qui jubilons, c'est nous qui laissons notre « je », non pas se fondre, parce que c'est pas un « je » collectif qui va émerger, c'est tout le contraire d'un chant fasciste, par exemple. C'est tout le contraire d'un hymne fasciste. Tout le contraire d'un chant identitaire où l'identité serait noyée dans la masse au profit du collectif. Ici, quand nous disons le Magnificat, lorsque nous disons « Mon âme exalte le Seigneur », nous ne jouons pas à Marie, mais nous reprenons ces mots, nous les faisons nôtres. Et en même temps, l'assemblée, ça devient un chant d'assemblée, et l'assemblée, c'est la somme de tous ces sujets qui peuvent dire je et qui peuvent aussi jubiler. Donc c'est tout le contraire effectivement d'un chant totalitaire où le sujet et l'identité devraient s'effacer au profit d'une espèce de collectif mortifère et négateur.
Ça c'est important, je crois.
Ouais, c'est important, et du coup lorsqu'il y a cette jubilation, bon, je pense au Magnificat de Bach, ouais, parce que je l'adore, et Bach, tout luthérien qu'il était, a eu le bon goût de garder les mots latins dans le Magnificat. Mais de fait, le premier morceau de l'œuvre, c'est pas un oratorio, c'est une pièce liturgique, mais la jubilation est telle que on peut faire l'expérience, non pas d'un moi qui serait annihilé et qui viendrait se fondre dans une espèce de grand tout qui est le rêve un peu du New Age, quoi, donc où on se fond dans le cosmos, etc. Mais au contraire, c'est un jeu qui jubile et qui s'élève, qui devient autre chose que ce que l'histoire a fait de nous, parce que ce que l'histoire fait de nous, c'est pas toujours palpitant, c'est pas toujours brillant. Mais voilà, tout d'un coup, on peut dire « je » et être fier de dire « je » dans une espèce d'identité qui est régénérée, qui est renouvelée et qui est en même temps profondément enracinée.
Oui, donc c'est un « je » élevé, mais il y a aussi l'universel qui vient tout de suite derrière, donc ça tient...
Oui, sinon ce serait le...
Sinon ce serait, voilà...
Identitaire, ce serait...
Ce serait, oui, purement identitaire, purement s'élever soi-même, comme certains philosophes peuvent en avoir le rêve de...
Les stoïciens...
De se former soi-même et de se convertir à soi-même et de se grandir, de sculpter sa statue. Mais en même temps, il y a c'est peut-être cette dimension-là. Mais pas seulement. C'est-à-dire, c'est pas simplement la construction d'un jeu ou se laisser construire comme un sujet par Dieu. Tout de suite, il y a cette dimension-là et puis l'universel. C'est-à-dire en disant, si c'est pour moi, c'est aussi pour les autres et ensemble. Donc c'est pour les autres, c'est l'universel et ensemble aussi, c'est ce qu'on appelle le corps du Christ, par exemple dans Paul, dans Romains 12 ou 1 Corinthiens 12. Et ça, je pense que cette dimension-là, cette dimension un peu plurielle, effectivement, multiple, de l'idée de la rédemption, de l'homme nouveau, c'est une dimension qui est essentielle.
Tout à fait. Et ce n'est pas l'homme nouveau des totalitarismes, justement.
Oui.
C'est l'homme nouveau qui n'abolit pas l'identité première, qui ne refaçonne pas, mais qui baptise, c'est-à-dire qui plonge dans plus grand que soi. Voilà. Mais quand on baptise, on n'abolit pas. D'ailleurs, on garde souvent le prénom que les parents ont donné le jour de la naissance. D'ailleurs, on n'abolit pas ce qui a précédé, mais on exauce.
Il y a un petit détail, vous voyez, il y a marqué « le puissant a fait pour moi de grandes choses ». Nous, on le connaît par cœur avec « le tout-puissant a fait pour moi de grandes choses ». Les traductions modernes, effectivement, les traductions récentes, ça c'est la Bible œcuménique, la traduction œcuménique, mais c'est pareil pour les nouvelles versions secondes, par exemple, au Jérusalem, ils ont cherché à respecter, c'était un peu un mensonge des traducteurs de mettre du tout-puissant partout pour Dieu. On sait ô combien ça a fait du dégât, si vous voulez, cette idée d'un Dieu tout-puissant, que aussi bien les théologiens catholiques que les théologiens protestants aujourd'hui manient avec la plus grande des prudences, si vous voulez, parce que ça fait des dégâts terribles, cette idée d'un Dieu tout-puissant. Peut-être qu'on chercherait à séduire pour avoir nous-mêmes la toute-puissance aussi. C'est un mécanisme tellement naturel que c'en est dangereux. Donc, il n'y a pas tout-puissant dans le texte biblique. Il y a marqué le puissant. Que Dieu soit puissant, qu'il fasse de grandes choses dans notre vie et dans le monde, je pense que nous en sommes témoins. Qu'il soit tout-puissant, non. Ça, c'est clair. Que la toute-puissance, en tout cas dans la Bible, elle est réservée pour la fin des temps, c'est-à-dire pour l'horizon de l'histoire, quand toutes choses seront réconciliées avec Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. Nous-mêmes, nous sommes plutôt avec notre Père. On en est encore à travailler, à espérer que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, et il y a de la marge. Donc, c'est l'inverse de la toute-puissance. C'est un Dieu qui cherche à travailler par la grâce, par l'amour, par l'appel, par l'infusion de l'Esprit. C'est pas un Dieu qui manipule et qui transforme en marionnettes les êtres et les choses.
Alors, les affamés, il les a comblés de bien. Parce que c'est quand même cette phrase qui nous est venue cet été lorsqu'on a pensé en esprit à cette séance. Les affamés. Alors, vous savez, il y a une tradition dans la Bible, c'est de parler des... ce qu'on appelle en hébreu les anawim. Les anawim, on traduit quelquefois les pauvres, les humbles. Ce n'est pas seulement une pauvreté économique, C'est un peu les sans-grade, c'est-à-dire ceux qui échappent aux classifications, les exclus. À l'époque même de Jésus, le courant religieux qui l'emportait, c'était le courant pharisien, vous savez. Et les pharisiens, pour pouvoir vivre les 613 commandements de la loi, du code de l'Alliance et du code de sainteté, devaient finalement se tenir à l'écart d'un certain mode de vie. Mais il y avait un certain nombre d'habitants en Palestine qui ne pouvaient pas, et pas seulement les publicains ou ceux qui travaillaient pour l'occupant, mais il y avait des tas de gens, ne serait-ce que les bergers, les fameux bergers de la crèche, parce qu'ils sont au contact des animaux, etc., parce qu'ils ont un mode de vie nomade, ne peuvent pas vivre dans toute son extension les prescriptions rituelles et légales de la Torah. Et donc, vous aviez tout un petit peuple comme ça, de gens obscurs, souvent, effectivement, les chroniques de l'époque n'en parlent même pas. Et je dirais que la grandeur de la Bible, c'est de dire qu'ils existent. Et non seulement qu'ils existent, mais que le salut est pour eux. Et bien sûr, lorsque vous mettrez vos bergers dans la crèche, vous y penserez, parce que c'était effectivement des exclus, c'était des parias. Ce n'est pas les jolis pastoureaux enrubannés, voilà. C'est d'ailleurs étonnant d'écrire ce texte et de dire qu'au fond, ils sont les premiers témoins, quand même, un peu comme Marie-Madeleine plus tard, pour la résurrection. Marie-Madeleine aussi, hein, vous voyez. Ils sont les premiers témoins de l'annonce. Ils sortent de leur sommeil et puis eux aussi ils croient puisqu'ils sortent de leur engourdissement et ils vont se rendre à la crèche. C'est très très beau et ce sont des anawim, ce sont donc des exclus, ce sont voilà des gens sans domicile fixe, c'est tout ce petit peuple qui grouillait de partout et que Jésus finalement reconnaîtra et à qui il rendra son existence, ce sont ces foules qui le suivent, c'est tous ces gens finalement qui ne prennent pas souvent de visage, mais qui existent. Il y a encore une autre expression, on dit les je ne sais plus, il y a un mot hébreu qui m'échappe pour parler de ces gens-là. Et précisément la tradition juive, la tradition prophétique en particulier, essayait de les rendre à une certaine visibilité, comme on dirait aujourd'hui. Voilà.
Je ne sais pas si elle était aussi niaise que ça, parce que son magnificat, en tout cas, qui est mis dans sa bouche, c'est un tissu de citations bibliques.
C'est un tissu de citations.
Et donc, c'est une leçon d'exégèse. C'est-à-dire que, voilà, c'est vrai que quand on connaît la Bible, il peut nous revenir dans notre vie quotidienne des versets qui vont nous aider, finalement, qui vont nous apporter non pas des contraintes pour nous dire qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela, mais comme des possibilités nouvelles qui peuvent surgir à travers un verset, à travers une pensée, à travers quelque chose. Et c'est ce qui lui arrive, finalement. C'est ce qu'arrive Jésus aussi dans les tentations au désert. Tentations, voilà, il y a des versets qui lui reviennent à la mémoire et qui viennent l'aider dans cette tentation face à son serpent, dans un sens. Et donc là, c'est une leçon d'exégèse parce que la Bible et les promesses faites à Abraham, elle le prend pour elle finalement comme s'accomplissant aujourd'hui, comme s'étant accompli dans son existence. Donc elle lit la Bible comme si elle parlait d'elle, l'Ancien Testament. Donc c'est pas simplement des lectures allégoriques pour démythologiser, comme on dit, comme dit notre ami Bultmann, les récits de l'Ancien Testament. Non. Mais elle lit la promesse faite à Abraham, elle m'est faite à moi et elle se réalise dans mon existence à moi, finalement. Et elle se réalise dans l'existence des autres. Donc c'est une leçon d'interprétation, d'appropriation de ces récits bibliques pour discerner les traces dans sa vie de cette grâce de Dieu. Et voilà, donc ça je pense que c'est quand même quelque chose qui peut faire de l'usage pour nous aussi. Et puis ça montre peut-être que Marie était en fait une lettrée, une connaisseuse de la Bible, et nous invite sur ses pas à lire l'Écriture et à la faire nôtre et à en faire notre propre lecture au jeu, pas simplement une lecture savante, mais une lecture mystique, une lecture par l'expérience aussi, notre expérience de vie.
Et effectivement, et dans l'expérience aussi de l'accueil, elle accueille Dieu, elle se laisse accueillir par sa cousine. Enfin, on ne peut pas ne pas penser au texte qu'on a lu la dernière fois sur l'accueil de la chaînette membrée, les chaînes de membrée, où là aussi, finalement, Sarah découvre l'enfant qu'elle va porter en elle au moment où elle accueille. Voilà, c'est dans l'expérience. Il y a quand même un lien entre la tradition de l'accueil et la naissance. C'est étonnant hein, que comment la Bible fait le lien en accueillant l'autre. On accueille aussi plus que ça. On accueille la vie. Enfin, je ne pense pas que tout ça soit anodin, que ce soit dans ce climat d'hospitalité qu'il y ait l'hospitalité de Dieu lui-même. Et que Marie devienne aussi voilà, accueil et terre d'accueil, au fond, hein, terre voilà, et temple. Alors,
Deuxième texte,
puisque le temps passe.
Luc 6, alors c'est les béatitudes, comme on dit. Béatitude, là, c'est de chez Luc, c'est béatitude et maltitude, si je puis dire.
Elle est tout mis aussi. Oh là là, là c'est un vrai.
Cette prédication à la foule, oui. Les heureux et les malheureux.
Alors, prédication à la foule, les heureux et les malheureux. On peut le lire, vous savez, en parallèle avec Matthieu. Le texte de Matthieu est plus connu parce que c'est celui que nous lisons chaque année pour la Toussaint, avec les sept béatitudes. Mais celui de Luc, c'est très bien parce que ça prolonge. C'est une très bonne idée. Ça prolonge les évangiles de l'enfance.
Alors là aussi, il y a un jeu de montée et descente. En fait, les épisodes précédents, Jésus était monté tout seul dans la montagne pour prier. Il passe la nuit et puis finalement, là, il appelle les apôtres. Donc je trouve que c'est très touchant. Luc nous décrit souvent Jésus en prière, souvent dans des moments difficiles en fait de son existence, des moments de... où il cherche un peu son cheminement. Et là, il est dans la nuit, donc c'est une obscurité, bien sûr. C'est pas la question de nous dire si c'est quelle heure du jour c'était. Il est dans cette prière jusqu'au jour venu, jusqu'à ce que la lumière vienne. Et puis, finalement, il a percuté peut-être qu'il peut pas être seul, agir seul, et il appelle 12. Et encore là, il descend avec eux pour aller vers la foule. Donc là, c'est encore peut-être l'incarnation qui se dit, si vous voulez, cette élévation pour s'ouvrir à l'expérience de Dieu. Là, c'est contrairement à Marie qui n'avait rien demandé, Jésus consciemment, volontairement, va chercher cette expérience de Dieu. Il persévère dans cette attente, dans cette recherche de Dieu, tant qu'il faut, tant que le jour n'est pas venu, finalement. On peut retrouver là un peu les récits de Jacob, par exemple. Hein. Il va finalement trouver ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire, peut-être. Mais ensuite, il quitte, finalement, ce temps de la mystique, hein, ce temps de la contemplation, ce temps de la recherche de Dieu, pour aller au boulot, finalement, hein. Et donc il s'arrête sur un endroit plat. Donc là, c'est pas le sermon sur la montagne.
Oui, c'est étonnant. Ouais.
C'est le sermon au ras des pâquerettes. Hein. C'est intéressant. Je crois que c'est là que vous voulez. Faut pas chercher simplement. Donc là, ils ont pas osé mettre que c'était. Il met un endroit plat pour se dire bon, pour pas qu'il y ait contradiction avec Matthieu, c'est le sommet de la montagne sur une montagne. Il dit sur le sommet de la montagne, il y a un petit plat. Donc peut-être ça peut aller. Non, c'est ridicule, si vous voulez.
C'est la plaine. C'est... Ouais, ouais.
Parce que c'est ridicule, parce que ne s'agit pas de se dire voilà exactement où c'était, est-ce que c'était sur une montagne ou sur la plaine. Il faut le lire comme une prédication. Donc ces mots-là, ils parlent de nous, si vous voulez. C'est cette descente au ras des pieds, finalement, au ras des pâquerettes, pour aller vers la grande multitude. D'abord les disciples, voilà, comme par cercle concentrique, les disciples, et puis toute la foule. Et puis voilà, tous ces affligés, tous ceux qui cherchent à entendre, c'est un peu des affamés, tous ceux qui sont affamés de santé, ceux qui sont affamés d'aide, ceux qui sont affligés, ils manquent de consolation, ils manquent de quelque chose, et tous, il y avait cette sorte de faim finalement, qui trouve en Jésus un rassasiement. Donc déjà, c'est mis un peu en acte aussi, si vous voulez, et ça nous dit... et ce mouvement de la foule et ce mouvement de Jésus et cette rencontre, moi que je trouve très parlante. Et puis à ce moment-là, Jésus, il lève les yeux. Là aussi, c'est incroyable. C'est Jésus qui lève les yeux. Alors, ça me rappelle d'ailleurs la bénédiction donnée à Moïse dans le nombre 6. Hein. Le Seigneur ou l'Éternel, nos traductions, mais souvent, tourne son visage vers vous et vous donne la paix. En fait, dans l'hébreu, il y a marqué le Seigneur ou Yahvé ou l'Éternel lève son regard vers toi. C'est fou comme nos traductions. Alors les traducteurs se disent non, c'est pas possible, le texte s'est trompé. Le Seigneur, l'Éternel, ne peut pas lever son visage vers nous qui sommes des humbles servantes dans le meilleur des cas et comme si Dieu était en dessous. Ben si, l'incarnation c'est bien ça, c'est-à-dire que Dieu se met en dessous de nous pour nous soulever. Et pas nous soulever seulement globalement, pour soulever la personne individuelle, comme le dit la bénédiction sacerdotale de nombre 6. Mais là, c'est ce qu'on retrouve. Il lève les yeux vers les disciples. Donc il se met en dessous. C'est là aussi, à mon avis, une leçon.
Sur la question du symbolisme, je rebondis juste sur ce que tu disais, puisque vous savez que l'évangile de Matthieu, donc le premier, est plutôt adressé à des juifs, et donc Jésus est présenté comme le nouveau Moïse, au fond, sur la montagne, on voit bien l'image. En plus, on dit qu'il s'assoit. Hein. Donc le sermon sur la montagne, Pasolini avait montré ça, c'était magnifique. Il s'assoit, il a l'autorité d'un maître qui enseigne, un maître d'Israël. Alors qu'ici, l'évangile de Luc, qui s'adresse plus aux goy, hein, plus aux païens, aux gens de culture grecque, donc qui ont des exigences littéraires, qui attendent, voilà. D'ailleurs, quelquefois, même, il y a des anachronismes, l'histoire de la maison avec les tuiles et tout ça, enfin, c'est pas tout à fait exactement le type d'habitat qu'il y avait en Palestine, mais Luc s'en moque, au fond. Ce qu'il veut, c'est parler au monde méditerranéen. Et donc, évidemment, la plaine, c'est, pour un païen, ça parle plus. Il n'y a pas le symbolisme de la montagne, c'est plutôt le symbolisme de l'agora, si vous voulez. Quand vous allez à Athènes, vous voyez bien l'agora, c'est ou un forum, le lieu de l'assemblée, etc. C'est un endroit plat, et on est plus dans un Jésus qui s'exprime en orateur de la tradition de l'Antiquité. Et pourquoi pas
descente,
ouais, et c'est descente
en jusqu'aux disciples, et puis même en dessous des disciples,
et qui a passé la nuit en prière et qui ensuite se met au niveau des gens, en fait, c'est un peu ça.
Ou même en dessous.
Et même en dessous, oui, tout à fait.
On lit ce paragraphe là c'est juste en bas de la page, en fait, c'est ça, oui.
Mais si, tu veux.
Préoccupation à la foule, les heureux et les malheureux. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit : heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent, et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes.
Merci.
Alors, je crois qu'il faut faire attention quand même à une lecture littérale, parce que non, c'est pas du tout heureux d'être pauvre, en fait. On a un rossignol qui est rentré dans le jeu. Donc, c'est pas du tout heureux d'être pauvre, c'est pas du tout heureux d'être affligé, c'est pas du tout ni la volonté de Dieu, absolument pas. Quand on est pauvre, on a du souci, on sait pas comment on va nourrir ses enfants. Quand on est pauvre, on n'a pas le nombre de calories suffisant pour que le cerveau soit bien irrigué, même, si vous voulez. Donc on a du mal à réfléchir, du mal à penser, du mal à voir clair. Donc non, on ne peut pas le lire littéralement. Et le programme de l'Évangile n'est absolument pas, à mon avis, de faire que nous soyons pauvres. Je ne pense pas. Attention aussi peut-être à dire, voilà, heureux ceux qui acceptent d'être pauvres maintenant, ils auront des trésors dans la vie future. Parce que ça, ça a été très efficace, effectivement, pour opprimer les foules, pour exploiter le pauvre peuple en disant, écoutez, laissez-vous bien exploiter dans ce monde et vous faites du trésor dans le ciel. Ça marche assez bien, en fait. Attention aussi, je pense, dans ces deux figures, de l'heureux et du malheureux, d'avoir la figure de... Mais qui peut se trouver ailleurs dans la Bible, hein, disant, ben, heureux ceux qui filent doux, qui sont bien dans la voie juste, parce que Dieu va les bénir avec plein de bénédictions et de belles choses, peut-être y compris de bénédictions matérielles dans ce monde. Il y a des sectes protestantes qui sont spécialistes de ça. Et puis, si vous êtes, par exemple, vous choisissez pas la bonne voie, la bonne foi, la bonne église, eh bien, bah, Dieu constatera que vous n'avez pas choisi la bonne voie et vous êtes dans la mort et il vous laissera dans la mort, en fait. Et donc, vous serez maudit. Alors, ça peut se trouver dans une certaine lecture, par exemple, du livre de Deutéronome, qui disant, comme dit Moïse, « Voici, je place devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Si vous suivez bien machin, je vous bénirai, puis si vous machin, vous serez maudit et tant pis pour votre gueule. » Alors, c'est pas ce qu'il y a ici du tout, je pense. Hein. D'abord, parce que « heureux », c'est vrai que ça évoque une bénédiction, c'est vrai que ça évoque du bonheur. Ça évoque aussi en hébreu, donc c'est bien connu, le verbe « heureux », c'est le même verbe... Acher, c'est le même verbe que être en marche, en fait, qu'être dans un mouvement, un bon mouvement. Et c'est ce qu'on voit. C'est pas heureux, vous qui avez faim, qui êtes pauvres, qui pleurez. C'est ce mouvement. Heureux qui avez faim, vous serez rassasiés. C'est dans le passage de la faim au rassasiement. Donc l'objectif n'est pas la pauvreté, la faim ou le pleur. L'objectif est de vivre ce passage, ce cheminement, cette dynamique. Et puis malheureux, c'est pas maudit soyez-vous parce que vous êtes des salauds de bourgeois. C'est hélas, c'est une onomatopée qui dit alala, finalement, qui dit ah mes pauvres, oh là, je sais pas comment dire, why, c'est un cri de lamentation, c'est une onomatopée de cri de pleurs en fait. Donc c'est dire hélas, vous qui êtes saturés dans un certain sens. Alors il y a une figure du juste et du méchant, du juste et du pécheur, du sauvé et du pas encore sauvé, plutôt, si vous voulez, parce que c'est pas péjoratif, c'est pas le pécheur, le méchant, comme ça peut se trouver ailleurs, une figure du juste, une figure du méchant. La brebis et les boucs de Matthieu 25. Non, c'est plutôt celui qui est déjà dans une bonne dynamique de salut et celui qui n'y est pas encore, finalement. Et sur qui Jésus pleure dans un certain sens. Alors, bien sûr, comme toujours dans la Bible, il y a ces deux figures. Ça ne veut pas dire que certains seraient dans le premier camp et d'autres dans le deuxième. Ça veut dire que ces deux réalités nous traversent tous et toutes, bien entendu. Hein. Et donc, ça nous invite plutôt à discerner dans notre existence... ce qui est du premier ordre et du deuxième ordre, pour être dans la meilleure des dynamiques possibles, c'est-à-dire en s'ouvrant à ce salut de Dieu, finalement, qui est manifesté en Christ. Et ça va jusqu'à nous dire, on est appelé à être prophète, donc ça c'est quand même une grande nouvelle, donc à être comme prophète et être un vrai prophète, pas un faux prophète. Donc de voir à l'intérieur de nous-mêmes quelle voix va pouvoir s'exprimer, quel esprit nous anime et quelle voix va pouvoir s'exprimer.
Alors tu as raison, c'est vrai, il y a une rhétorique prophétique, ça c'est évident, donc Jésus se coule dans un genre littéraire au fond, donc qui lui préexiste. Il y a une rhétorique prophétique de dire heureux, voilà, malheureux. On entend ça déjà dans les psaumes, hein. Heureux celui qui pense aux pauvres et aux faibles, heureux le juste, etc., lui le bonheur. Donc effectivement c'est un genre, Évidemment, le risque, c'est quand même de démousser un peu peut-être le côté radical et même choquant. Parce que je pense que le côté choquant n'a pas échappé aux gens de l'époque. Je pense qu'il y avait une gêne, à tel point d'ailleurs que quand Matthieu écrit le même texte, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Parce qu'il est gêné par le « Heureux ceux qui ont faim ». Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est limité dans ses besoins vitaux, dans ses besoins vitaux primordiaux, et qui est bafoué dans ses besoins vitaux que sont la faim et la soif, il y a quelque chose d'inaudible dans ce que dit Jésus. Et je pense qu'on a été, effectivement, dès la première génération, on a cherché à spiritualiser, en disant « Ah ben oui, mais il voulait dire, c'est une métaphore, bien sûr, il voulait dire ceux qui ont faim et soif de justice ». Alors, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, parce que il aurait pu dire ceux qui ont faim et soif de Dieu, vous voyez, ceux qui ont une faim, une soif spirituelle. Tu sais, Peggy se moquait beaucoup de ça, cette espèce de... Parce que c'est une quête un peu ambiguë, c'est la quête du sacré, c'est une quête un peu pour soi, c'est une quête qui est une sorte de, finalement, de gourmandise spirituelle. Donc là, il y a quelque chose de plus radical. Dans faim et soif de justice, c'est la justice qui est Dieu, qui peut me transformer, qui peut faire de moi quelqu'un de juste, etc. Bon, donc il y a déjà, dans cette spiritualisation, quand même un effort de prendre au sérieux l'esprit de Jésus. Mais chez saint Luc, il faut quand même le dire, il dit « Heureux ceux qui ont faim ».
Maintenant.
Et ça, c'est une... Oui, c'est une... C'est pas une constante, mais enfin, c'est quelque chose qui affleure de temps en temps. Dans l'épître de saint Jacques, on a ça, « Malheur aux riches ». Alors évidemment, il y a toute une tradition, comment on pourrait dire, anarcho-chrétienne, qui aime beaucoup ces textes. Mais de fait, je pense que ça vient du prophète Amos, par exemple, qui est assez rude, qui tape, qui envoie des avoinés aux gens qui sont, comment, les vautrés, etc. Donc il y a quand même une tradition de mise en garde contre la satiété, contre ceux qui sont les repus, voilà, les repus, les nantis, et donc ceux qui s'installent dans une paresse spirituelle qui les coupe de l'empathie avec les autres. Et certains de mes élèves me disaient, mais je crois que je vous ai déjà dit ça, cette histoire-là qui a tourné sur Internet, on a donné 100 dollars à un certain nombre, à un panel de personnes, et c'était les plus pauvres qui partageaient, parce qu'au fond, c'est classique, Jésus le dit déjà avec la pauvre veuve. Et puis, il y a des gens, on leur donnait 100 dollars, ils prenaient. Voilà. Bon, moi, j'aurais pris peut-être, alors, je ne sais pas. Ou alors, on fait des comptes d'apothicaire, si vous voulez. Mais il y a des gens, ils se disent, il y a mon pote dans la mise.
50-50.
Oui, voilà. Et c'est impressionnant, ce phénomène. Je me souviens de prêcher une année, une retraite sur l'argent. Ce n'est pas facile. Et l'argent dans l'évangile, avec le mauvais gérant, avec la parabole des talents, etc. Il y a des paraboles qui sont compliquées. Rendez à César ce qui est à César, etc. On voit bien que, puis il y a l'éloge de l'intendant malhonnête, donc on avait fouillé pendant 4 jours tous ces textes, et on sort de là un peu groggy d'ailleurs, parce que on voit bien, on finit par comprendre ce qu'il veut dire, mais c'est pas simple. Et donc, effectivement, comme tu le dis, Jésus n'est pas dans un rejet de la richesse, ça c'est évident. Mais il y a quand même cette tradition qui vient des prophètes, où celui qui est repu est considéré quand même comme coupé de la vie avec Dieu, coupé de la communion avec Dieu. Alors... Voilà, comment lire ces textes? Je comprends maintenant pourquoi, à la Toussaint, on entend plutôt Matthieu que Luc, parce que Luc, c'est rude à entendre. Et en même temps, il faut quand même l'entendre aussi. Voilà, sans peut-être tout de suite... Mais bon.
Mais c'est aussi malheur aux riches, à ceux qui avaient riches de religion, riches d'orthodoxie, riches d'orthopraxie, bonne doctrine, de bonne religion, de bonne générosité. Voilà, c'est ce que dit un peu Paul dans la fameuse hymne à l'amour aussi. C'est pas la question voyez, d'avoir tout ça, même des bonnes œuvres, même de la foi.
C'est la richesse de la bonne conscience, au fond, hein, ce que Peggy appelle les honnêtes gens. Et c'est-à-dire, au fond, le pauvre serait celui à qui on enlève même la possibilité d'avoir une bonne conscience. C'est ça. Ben oui, c'est le pauvre pharisien qui se met au fond de la synagogue et qui dit voilà, qu'il n'est rien, etc. Parce qu'il n'a même pas la bonne conscience. Parce qu'au fond, ce qui le distingue du pharisien, ce n'est pas tellement les richesses dans cette parabole, c'est que l'autre a la bonne conscience. Et il ne sait pas que cette bonne conscience est une forme de limite et de pauvreté, alors que le pauvre, c'est celui à qui on enlève tout, y compris la possibilité voilà, d'être un peu en paix avec lui-même, avec cette fatuité que donne la bonne conscience. Hein, où on est, voilà. Parce que le pharisien, au fond, le problème, c'est ça, c'est qu'il s'enorgueillit du bien qu'il fait. Il n'est pas Tartuffe, d'ailleurs, Tartuffe, c'est autre chose. Mais il a cette bonne conscience. Et le pauvre est même pauvre de ça. Et on lui enlève même ça, le droit d'avoir une bonne conscience. Et je crois que c'est ça aussi qui est terrible. Mais je crois que c'est une expérience humaine très forte. Il y a des gens comme ça, c'est leur pauvreté, c'est ça. Personne ne leur a dit qu'ils sont aimés, qu'ils sont dignes, qu'ils sont...
Ouais. Et puis il y a ceux qui sont sans vergogne parce qu'ils ont tellement de bonne conscience qu'il n'y a pas cette faim et peut-être ce pleur. Alors c'est vrai qu'un des défis de l'évangile, c'est en même temps de dire la grâce. Donc c'est quand même une consolation formidable pour les affligés. Mais en même temps, c'est aussi d'affliger les trop confortables. C'est compliqué l'évangile. C'est qu'effectivement, il faut les deux. Parce que si on dit, ben voilà, de toute façon tout est donné. Oui, c'est vrai que tout est donné, mais en même temps... il peut y avoir un trop-plein de ça, de se dire, ben voilà, tout est donné, donc ben voilà, c'est alléluia, et on fait finalement, alors que non, il y a une sorte d'ardeur à vivre. Alors ce qu'on voit, à mon avis, c'est que là, à travers ça, il y a quand même une alliance qui se dit, d'ailleurs on le voit à travers l'idée des 12 apôtres qui sont nommés, c'est qu'on entre un peu dans une alliance, en fait, à travers ce moment-là, et ce 12, bien sûr... qui est d'ailleurs très discutable, savoir s'il y avait 12 apôtres, c'est un peu discutable. C'est plutôt quand même un chiffre rond qui vient dire, ça fait comme un nouvel Israël, c'est une référence aux 12 tribus. Certains disent 70, à ce moment-là ce serait une autre référence, bon là c'est 12. Donc il y a une référence à un peuple de l'Alliance qui est un peuple de gens appelés et peut-être aussi qui sont envoyés vers les autres. Donc il y a une alliance qui se dit ici. Mais l'alliance, qu'est-ce que le genre d'alliance c'est finalement? C'est pas tellement une orthodoxie, c'est-à-dire une révélation sur Dieu ou sur
la vérité.
Sur la vérité, oui. Comme pourraient peut-être le chercher des Grecs, par exemple.
Tout à fait.
C'est pas non plus une orthopraxie, c'est-à-dire des 613 commandements, comment être juste, une morale, une religion, je sais pas quoi, non. C'est plutôt une manière d'être, en fait. C'est plutôt de l'être, c'est plutôt la personne, c'est plutôt une façon d'être, je sais pas comment dire. Et ça, je pense que ça change quelque chose par rapport à... C'est un peu neuf, finalement, par rapport à d'autres programmes, oui.
Puis il y a l'idée quand même d'une... Lorsque Matthieu dira « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », je suis allé voir le texte grec, c'est le participe présent, donc c'est l'idée, c'est pas circonstanciel, c'est pas conjoncturel, c'est une sorte de permanence, c'est-à-dire « Heureux ceux qui sont habités par une faim et qui, même lorsqu'ils sont rassasiés, continuent quand même d'avoir faim ». Vous savez, c'est parole qu'on dit pour le Benedicite, donne du pain à ceux qui n'en ont pas, mais on a envie de dire que quoi, il donne faim à ceux qui en ont. C'est-à-dire qu'effectivement, de pouvoir mesurer ce que c'est, pas par une espèce de pirouette, mais par effectivement pour découvrir qu'en nous-mêmes, tout ce qui nous rassasie ne comble pas, et puis que le différentiel n'est pas forcément un malheur. On rejoint encore ce que je disais sur le désir, sur le fait que le désir, ce qui se creuse en nous, est aussi un espace pour quelqu'un. C'est un espace amoureux pour quelqu'un, ou qu'on accueille aussi, parce que nous sommes aussi la crèche, nous sommes aussi les hôtes, nous sommes aussi ceux qui, qui sont enceintes, comme tu as dit, enceintes. Nous aussi, nous, dans la tradition mystique, on appelle ça la deuxième venue du Verbe, hein, la deuxième naissance, la troisième naissance. La troisième naissance, c'est la deuxième venue, la troisième naissance, qui est en nous, en fait. Et à un moment, il faut qu'on en ait faim, il faut qu'on ait un appétit spirituel qui ne soit pas juste un appétit de vérité au sens gnostique, parce que ça, Nietzsche était très sévère avec ça, c'est presque une pathologie, ça. Mais c'est un appétit de quelqu'un, d'une relation vraie, d'une communion profonde avec cette personne qui nous engendre sans cesse, qui nous enfante sans cesse, qui nous remet sans cesse dans la vie, qui nous remet sans cesse dans le désir, etc.
C'est-à-dire c'est la
jusqu'à
lecture,
la fin.
C'est la lecture qu'en fait Matthieu, finalement, quand il met « heureux les pauvres en esprit oui. », c'est-à-dire ceux qui se sentent pauvres de l'Esprit de Dieu et qui en veulent plus, mais qui en même temps notent qu'il y a déjà quelque chose de l'Esprit de Dieu en eux, parce que le pauvre, ce n'est pas le démuni totalement, c'est le pauvre. Donc, qu'on a un peu d'Esprit de Dieu en nous et qu'on espère toujours en avoir plus de cet esprit ou de cette dynamique
vivifiante
de Dieu en nous.
Oui, l'expression « les pauvres de cœur, les pauvres en esprit », c'est chez Matthieu aussi. Vous voyez, Matthieu a vu le problème et il...
Il leur donne une interprétation. Il donne sa lecture.
Il donne sa lecture, ouais.
Sa compréhension de ce qu'a dit Jésus, qui était effectivement rude et provocant, comme souvent. Parce que souvent, Jésus est comme ça. Il dit « ne résistez pas aux méchants, ce n'est pas un programme de société, c'est inapplicable ». Donc c'est pour faire réfléchir, c'est un appel à avancer. Donc là, c'est un peu provocant, c'est pour faire choc, mais c'est en même temps pour qu'on en fasse, à mon avis, une interprétation spirituelle dans notre existence, hein. Comme le fait Matthieu, je pense. Oui.
Alors,
est-ce qu'on a le temps de lire ce récit ? Ça sera peut-être...
C'est un petit flashback, là, sur la manne. Je ne sais pas ce qui nous est passé par la tête quand on s'est dit ça. C'est sur, effectivement, la faim au désert.
La faim rassasiée, la faim au désert.
Oui, le manque comme expérience de confiance.
Parce que c'est une longue tradition, quand même, et dans une relecture très, très, très classique dans l'Évangile, de relire, bien sûr... le salut donné en Jésus-Christ comme à lire finalement en parallèle avec la Pâque juive. Et donc ce mouvement, on avait vu récemment, je pense, la dernière fois, on avait vu la Pâque, c'est-à-dire ce repas de la Pâque, et dans une relecture chrétienne, la suite, c'est ça, dans le désert, dans ce cheminement dans le désert. Les Hébreux aussi, ils regrettent finalement les pots de viande de l'Égypte. Ils regrettent ce rassasiement, j'allais dire, purement humain, purement matériel, et pour cet inconfort de ce cheminement, cheminement par la parole, cheminement par la présence de Dieu. Et à ce moment-là, il récrimine contre Dieu, ce qui est tout à fait permis, bien sûr, mais peut-être même la base de la prière, c'est d'engueuler Dieu, ce qui est tout à fait permis, puisque, bon, d'abord, il y a une longue tradition avec Abraham, contrairement à ce qu'on pense, on a tout à fait le droit de faire le grognon, ou la grognonne, pas réservé aux mecs non plus, face à Dieu. Pardon ?
C'est un désir de comprendre.
C'est un désir de comprendre, c'est une confiance en Dieu de dire, ben écoute, de dire tel qu'on le pense, avec des amis, avec un ami, avec son conjoint, il vaut mieux gueuler que se faire la gueule, quoi. Bon, on peut se faire la gueule un petit peu, mais il faut quand même que ça passe pour ensuite communiquer. Ensuite, si on est sans arrêt dans la récrimination, machin, c'est insupportable. Enfin bref, c'est comme une respiration aussi. Là, si on a quelque chose à dire à Dieu, on peut le dire franco, c'est ce qu'ils font. Ils disent, on est en train de mourir de faim, et voilà, hein, ça ne va pas du tout. Et donc, finalement, Dieu tient compte, donc ce n'est pas un Dieu qui sait tout d'avance de notre désir, finalement, de notre besoin, c'est un Dieu qui écoute aussi nos récriminations et nos besoins, et qui y répond. C'est donc déjà une figure de Dieu qui est intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'il va donner ? Et donc, il va donner cette manne qui tombe le matin et des cailles le soir. Et il donnera l'eau au chapitre suivant. Donc en fait, le menu du pique-nique dans le désert ou dans ce cheminement, il est donné un peu en vrac. On aimerait, pour avoir le pique-nique, avoir le pain, la viande à mettre au milieu, ça fait un sandwich, et puis avoir une bouteille d'eau avec. Enfin, si, normalement, il faudrait les trois. Bon, là, les trois sont mis un peu en vrac, je ne sais pas pourquoi, un peu séparés. Alors la manne, c'est connu, parce que Jésus-Christ, il va ensuite... c'est dans Jean 6, hein, tout ce chapitre sur le pain de vie. On le voit pas, ça, on va le faire un jour, non, ça, ou pas, on n'a pas mis. On l'a pas mis, on aurait pu le mettre, hein, parce que c'est très important.
Si, mais on en parlera pour l'Eucharistie, forcément. Alors,
on le fera peut-être pour le pain rompu, Luc 22, Luc 24 et 1 oui. Corinthiens 11, en mars peut-être. Hein. Mais en tout cas... Donc Jésus dit, vos pères ont eu la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain vivant descendu du ciel. Et il parle donc de sa chair, nous dit Jean 6. Alors là, on a la chair aussi, c'est l'écaille. Alors les pères de l'Église, ils disent, le pain c'est la parole qui est donnée en Christ, oui. Et la chair, c'est la vie du Christ, en fait, hein, qui est donnée. C'est les deux espèces, si vous voulez, de la scène, de la communion. D'autant plus que, si vous voulez, là, il y a quand même un peu des jeux de mots, dans un sens, en hébreu. La manne, si on a le temps de le lire, on verra ce que ça veut dire. Ça veut dire du « qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, ce qui nous nourrit pour être dans ce cheminement, c'est quand même du questionnement. C'est se poser des questions. Et Dieu pour nous nourrir, et c'est quotidien, c'est pas simplement une fois pour toutes. Il faut, au matin de sa journée, aller cueillir, finalement, un bon questionnement, une interrogation peut-être, devant ce que Dieu nous a donné pour nous nourrir. Et donc ça se fait dans la prière, ça peut se faire dans l'étude, ça peut se faire dans la méditation, ça peut se faire dans la rencontre avec l'autre, que sais-je. En tout cas, il y a cette première aliment, et le deuxième, c'est la chair. Alors, en hébreu, là aussi, il y a un jeu de mots hein, qui est bien connu. La chair, ça se dit « bassar », et l'évangile, la bonne nouvelle, ça se dit « bessora ». Donc, c'est le même mot pour dire la chair et pour dire l'évangile, la même racine. C'est toujours le propre de l'hébreu qui est polysémique. Les mêmes mots, sans raison des fois apparente, veulent dire deux choses différentes. On l'avait vu pour « être heureux », c'est à la fois « hacher », ça veut dire à la fois « être heureux » et « être en marche ». Ça, on peut le comprendre, ça veut dire que le bonheur est dans un mouvement, dans un bon mouvement. Ce qui est vrai, à mon avis. Et inversement, quand on est dans un bon mouvement, il y a un vrai bonheur existentiel. Là, que la chair, ça soit la bonne nouvelle, soit l'évangile. Évangile en grec, c'est bonne nouvelle et ça se dit bessora, comme la chair. C'est peut-être aussi c'est peut-être un hasard, parce qu'il y a peu de lettres hébraïques, les racines font deux ou trois lettres, donc on a vite fait le tour, si vous voyez, c'est un problème de combinaison. Ça peut être un hasard. Parfois, c'est pas un hasard. Pour Hacher, c'est pas un hasard. Pour la chair et la bonne nouvelle, peut-être que c'est les bonnes nouvelles, par la gratitude aussi, la rumination des bonnes nouvelles, c'est un vrai nourrissement de notre être profond aussi. C'est quelque chose qui nous donne de la chair aussi, qui nous donne... voilà. Donc, il y a ces deux choses qui nous sont données. Ça peut être aussi une invitation spirituelle. En tout cas, le Christ la reprend pour lui-même. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est quand même vraiment profond. Surtout si on constate que cette parole que Dieu nous donne, c'est du questionnement. Et ça, je crois que l'Évangile, sans arrêt, on bute là-dessus. Les paroles incompréhensibles de Jésus, ces paraboles toujours avec des pirouettes qui sont surprenantes. Sa vie même, jusque dans sa mort, hein, qui pose question. Donc c'est des choses, voilà, tout ça, ça nous donne, c'est une nourriture qu'on reçoit dans le désert pour connaître Dieu et connaître sa gloire. C'est-à-dire sa puissance pour nous transformer, nous mettre en route.
Oui, moi je ne sais jamais trop quoi dire sur ce texte, à vrai dire, mais ce qui me frappe, c'est que au fond, ils vont en manger pendant 40 ans. Et on vous dit, c'est comme de la graine de coriandre, c'est blanc, avec un goût de beignet au miel, etc. Alors, il y a toutes sortes d'archéologues qui ont dit que c'était un pollen qui venait se déposer, je ne sais pas quoi. Mais effectivement, donc au début, ils ont dû être contents, mais manger ça pendant 40 ans, vous savez, du sucre d'orge comme ça, et ça fait penser quand même à l'itinéraire spirituel de chacun d'entre nous. Donc au début, ils récriminent parce qu'au fond, en Égypte, c'était mieux. Ils étaient esclaves, mais au fond, ils ont la nostalgie de leur servitude parce que ils mangeaient et puis on rasait gratis, alors que là, tout d'un coup, ils sont dans le désert et que... Alors, maintenant, ils ont cette nourriture, donc tout va bien, mais on sait qu'après, ils vont s'en lasser aussi. Et donc, c'est un peu comme la vie spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des étapes et il y a des moments de consolation où tout prend une saveur, une couleur, et puis on sait qu'il y a des moments d'aridité où même la nutrition qui nous a... La nourriture qui nous a nourris, qui nous a réjouis, eh bien, elle-même, elle semble perdre sa sapidité. Tout le monde le sait très bien. Sauf qu'il y a quand même le terme, qui est ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Il y a quand même la terre de Canaan. Donc, il y a un terme à la vie pérégrine et à la vie spirituelle. Et si on perd de vue le terme, effectivement, il y a toujours le risque d'une lassitude, le risque d'une répétition, d'une routine. Et c'est là que précisément on finit par vivre en surface de soi et qu'on n'arrive plus à réactiver et à désensabler les sources qui sont en nous et qui nous permettent de toujours avoir faim, justement, de toujours avoir faim de justice, faim de Dieu. Et le risque que la nourriture qu'on nous apporte, qu'on vous apporte dans un groupe biblique, par exemple, à un moment, il faut effectivement l'absorber, il faut la digérer. Et il faut l'incorporer, il faut faire, c'est comme la nourriture, il faut que ça devienne une partie de nous-mêmes. On fête Saint Jean de la Croix aujourd'hui, le 14 décembre, c'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix ne parle que de ça. La nuit mystique, c'est ça, c'est la traversée du désert, justement.
Mais d'ailleurs, le chiffre de 40, c'est fait partie de ces nombres ronds dans la Bible. Quand il y a un nombre rond dans la Bible, ce n'est pas un chiffre de quantité, c'est un chiffre de qualité toujours. Donc 40, c'est comme les 40 jours de Jésus dans le désert, lui aussi. Il ne faut pas compter de 1 à 40 le nombre de jours, comme si on pouvait, l'être humain, fût-il Jésus-Christ, pourrait vivre 40 jours sans manger et sans boire. Mais c'est le temps d'une gestation, 40. C'est un temps un peu improductif, un peu pénible, mais qui débouche sur un autre soi-même, finalement. Et donc, ça évoque aussi une invitation à manger tant qu'on n'a pas changé. Alors, c'est ce que disent souvent les paroissiens le dimanche matin. Ils disent, mais Père Préjean, cette homélie, vous me l'avez déjà faite l'année dernière.
Ah, il ne me dit jamais ça.
Non.
Pas encore.
C'est à quoi tu pourrais répondre. Tu dis, tant que vous n'aurez pas changé, je répéterai la même. Mais effectivement, c'est la question. On peut manger de la manne tant qu'on n'a pas changé. Voilà.
D'accord.
Et puis, il faut ruminer cela. Tant que ça n'a pas produit une transformation de notre être, eh ben, il faut y revenir. Il y a ce travail, finalement, dans la transformation de notre être. Alors, c'est un peu ingrat, le 40, c'est sur ce chiffre. Un peu ingrat, parce que le 4, c'est un peu la géographie, le monde, et le 10, c'est un peu l'obéissance, les 10 paroles, donc c'est quand même besogneux, si vous voulez, le 40. Mais ça débouche sur un accouchement, c'est le cas de le dire, ça débouche sur un accouchement d'un nouveau nous-mêmes, dans la terre promise, une façon d'être, un peu christique. Alors, ensuite, le coriandre, eh bien, il paraît que ça se dit Gad en hébreu, comme Gad, le fils la tribu, qui veut dire le bonheur, qui veut dire la chance, qui veut dire l'heureuse circonstance. Et donc, c'est un peu une graine de... ça a le goût, le parfum de quelque chose qui est une graine de bonheur, en fait. Peut-être. Enfin, c'est ce que disent en tout cas les rabbins. Et donc, c'est peut-être ce qu'on vous souhaite
voilà.
À travers ces fêtes de Noël, peut-être. De
en espérant aussi que vous restiez un peu sur votre faim, parce que c'est quand même le message de la soirée, c'est qu'il faut rester un peu sur sa faim pour continuer d'avoir faim. Voilà.
Et pour se retrouver, donc.
Et on se retrouve en janvier, le 11 janvier, à l'Oratoire du Louvre. Et effectivement, bonne fin du temps de l'Avent et de belles fêtes, douces, paisibles, lumineuses, fêtes de Noël pour tous.
Merci, à bientôt. À bientôt.